Erotico, le podcast loco de tous les désirs.
Bonjour Émilie, merci d'avoir répondu à l'appel d'Erotico, un podcast loco.fr enregistré dans le studio de la radio L'Écho des Garrigues aux ateliers Tropisme à Montpellier. Émilie, tu as 45 ans, tu vis à Montpellier, tu exerces une profession libérale et tu es polyamoureuse. Qu'est-ce donc que cette chose, le polyamour ?
Alors, le polyamour, c'est une manière de pratiquer les relations plurielles de manière éthique et consentie. On peut être amoureux de plusieurs personnes. Le spectre polyamoureux est assez large. L'essentiel, c'est la transparence et l'éthique.
Et depuis quand tu es polyamoureuse ? Et tu as découvert ça comment ?
Je pratique le polyamour depuis un an. Et en réalité, en y réfléchissant bien à travers des cercles de parole, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais polyamoureuse depuis toujours. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'à l'adolescence, j'avais aimé plusieurs personnes à la fois. C'est quelque chose qui était en moi, mais qu'évidemment avec le modèle de un peu conte de fées ou un couple, trois enfants, ils vécurent longtemps et heureux, je m'interdisais systématiquement d'avoir des sentiments pour un autre homme que celui avec lequel j'étais. Et plus tard, adulte, ça m'est arrivé à nouveau. Et comme j'étais en couple avec le père de mes deux premiers enfants, j'ai fait en sorte qu'il ne se passe rien. Parce que pour moi, une de mes valeurs, et c'est pour ça que je pratique le polyamour, c'est à la fois la bienveillance et la transparence et l'honnêteté.
Et aujourd'hui, ta vie de polyamoureuse, concrètement, elle ressemble à quoi ? D'ailleurs, ma première question, ce serait combien d'amoureux ou d'amoureuses tu as aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Aujourd'hui, j'ai un amoureux sûr et je débute une relation avec quelqu'un d'autre et j'ai une amoureuse. Alors aujourd'hui, on s'est dit qu'on était en relation, donc je pense que ça y est, on est en relation. Voilà.
Et tu as aussi un petit garçon de 4 ans et tu as une carrière. Et comment tu gères ton temps ? Parce qu'on se dit que c'est déjà difficile pour les mono-amoureux, si j'ose dire.
Alors, c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a que 24 heures dans la vie d'un polyamoureux. Ça, c'est quelque chose qu'on se dit régulièrement. C'est pas toujours simple à gérer. On se voit pas tous les jours non plus, hein. Il y a des amoureux qu'on peut voir une fois par mois. Il y a des amoureux qu'on voit effectivement tous les jours en couple socle ou nid, c'est le couple principal. Et d'autres une fois par semaine, etc. Donc il faut jouer avec le temps. On utilise aussi beaucoup les échanges. Moi j'utilise les échanges écrits pour maintenir le lien. Je trouve que c'est important pour maintenir le lien, pour le développer et puis pour que les relations se construisent, quel que soit le type de construction qu'on peut avoir.
Tu as parlé de couple socle. Il y a donc une hiérarchie bien établie entre tes amoureux. Est-ce que, par exemple, le père de ton enfant ou ton compagnon, il avait une place à part avec une forme de sécurité affective, une sorte de garantie de stabilité du foyer ?
Alors, en termes de sentiments, en tout cas, mon ressenti à moi, et je pense que le ressenti des polyamoureux n'est pas toujours exactement le même, mon ressenti à moi, c'est que mon intensité émotionnelle et mon investissement émotionnel est toujours le même. C'est-à-dire que on parle dans ces cas-là un peu d'anarchie relationnelle, c'est-à-dire qu'au niveau des sentiments, l'investissement émotionnel que je vais avoir va être le même. C'est-à-dire que je vais être amoureuse de la même façon de mes amoureux, de mes amoureuses. C'est un peu comme des enfants. Je ne veux pas dire que mes amoureux sont des enfants, hein. Je veux dire que quand on est parent d'enfants, on aime ses enfants de la même manière. Par contre, on va vivre des choses différentes et on va construire des choses différentes avec chacun des enfants, puisqu'en fait, on a des personnalités différentes. Je ne sais pas si j'étais assez claire.
Oh, si, si, tu as été très claire. Et je voulais revenir sur, avant d'être polyamoureuse, tu m'as dit que tu as été libertine pendant de nombreuses années, tu l'es peut-être toujours encore. Je voulais savoir si c'était assez naturel de passer du libertinage au polyamour, parce qu'on pourrait se dire que c'est une question de liberté, la liberté des corps, bah, à ce moment-là, pourquoi pas aussi la liberté des cœurs, ou au contraire, est-ce que c'est plutôt rare? Les libertins polyamoureux ou les polyamoureux libertins.
Alors, je ne suis pas sûre que ce soit rare. Je pense que les termes qui sont parfois un peu... les étiquettes, ça enferme aussi. Les termes qu'on emploie sont juste un peu différents. Je pense que les libertins, parfois, peuvent développer des sentiments à l'égard de leur partenaire. Ça peut arriver. Et que du coup, en fait, ils en deviennent polyamoureux. Mais ils ne le savent pas. De même que chez les polyamoureux, il peut y avoir des relations uniquement sexuelles. Et là, on serait plus sur éventuellement du libertinage. Par contre, est-ce que c'est facile de passer du libertinage au polyamour? La réponse est non, parce qu'on est quand même sur un niveau au-dessus. C'est que là, on n'est plus sur juste la liberté des corps, mais aussi sur la liberté des sentiments. Et on touche à quelque chose de très important, c'est l'insécurité, la jalousie, affective. L'insécurité affective que ça peut générer chez les uns et chez les autres.
Est-ce que tu dis facilement autour de toi que tu es polyamoureuse? Et si oui, quel genre de réaction ça suscite par rapport aux réactions que tu pourrais avoir en disant, ou à l'époque où tu disais seulement que tu étais libertine? Quel est le regard que les gens portent sur le polyamour, si tant est qu'ils sachent ce que
Alors,
c'est?
je n'ai jamais dit à personne que j'étais libertine. Personne ne le sait. En dehors des polyamoureux. Les polyamoureux savent que j'ai été libertine. En revanche, en ce qui concerne le polyamour, il y a des milieux dans lesquels je n'en parle pas. Et quand j'en ai parlé, par exemple, à ma famille, parce que pour moi, c'était important qu'ils sachent finalement qui j'étais et que j'étais née comme ça. Les réactions étaient un peu diverses. Certains ont dit si tu es heureuse, c'est parfait. Donc la réaction la plus adaptée et la plus parfaite. D'autres ont eu un peu des peurs. Ah bon, mais ça va pas mettre en insécurité ton couple socle. Est-ce que voilà. Et puis d'autres encore ont, voilà, je pense notamment à mon frère. J'ai senti une sorte de tiens, c'est quoi cette dernière lubie de ma sœur? Est-ce que c'est la crise de la quarantaine ou quoi? Et en même temps, j'ai senti de la peur parce que d'un seul coup, sa compagne s'intéresser au polyamour, et là, ça a fait ah non, 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 on n'en parle pas, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Voilà.
Et notamment, je sais que tu as deux grands-enfants d'une première union, qu'ils ont 17 et 20 ans, à un âge où on se construit, on cherche des modèles. Est-ce qu'ils savent tout ça et comment ils l'acceptent ou non?
Oui, moi c'est une des questions il y a un an et demi quand je suis venue au premier café poli que j'ai posé, c'est est-ce que je le dis à mes enfants ou pas? Parce que là, on n'est pas sur une question, on n'est pas juste sur une question d'intimité sexuelle qui appartient qu'aux parents. On est aussi sur le fait que, y a des sentiments et qu'il y a des constructions possibles avec diverses personnes et que les enfants peuvent être amenés à rencontrer cette personne parce que bah, on fait des choses ensemble. Et donc, je me suis demandé est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas? Et en fait, il existe un interview d'une femme d'enfant polyamoureuse, une américaine qu'on retrouve sur TEDx, qui explique qu'elle est très heureuse d'avoir su que ses parents étaient polyamoureux et parce que même si elle ne savait pas si elle était polyamoureuse ou mono-amoureuse, elle était contente d'avoir rencontré toutes ces personnes, d'avoir eu finalement plusieurs personnes qui se sont occupées d'elle, plusieurs parents finalement, ou en tout cas plusieurs référents, et de savoir ce qu'elle existait la mettait un peu en sécurité en se disant il n'y a pas qu'un seul modèle. Ça, c'est ce qu'elle explique en gros. Et puis, quand on est attaché à la valeur de la transparence, finalement, mentir à ses enfants, on n'est plus du tout sur la transparence. Donc oui, je leur ai dit. Les réactions. Alors, la réaction de ma fille, ça a été non, non, et non, je ne veux pas entendre parler, et un petit peu en retrait. Mais aujourd'hui, je vois bien qu'elle accepte finalement assez facilement, même si elle, elle se dit profondément mono. En tout cas, elle accepte facilement que moi, pour moi, ce soit comme ça. Et mon fils, ça a été « Oh, maman, tu sais, heureusement que tu as un fils extrêmement ouvert d'esprit. » Voilà, donc moi.
Et tu en as un peu parlé déjà, parce que non seulement tu vis une vie de polyamoureuse, mais tu animes aussi donc des cercles de parole à Montpellier et ailleurs. Quel est le principe de ces cercles? Pourquoi ils existent déjà? Pourquoi ils ont besoin?
Alors, je ne les anime pas. Je participe à l'organisation de ces cercles et c'est d'autres personnes qui sont beaucoup plus expérimentées que moi, qui ont 7, 8 ans de polyamour, qui les animent. Pourquoi ils existent? Eh ben, je parlais tout à l'heure de l'insécurité affective. Un polyamoureux, il ne faut pas croire qu'il n'est pas jaloux. Bien sûr que la jalousie, c'est un sentiment humain, ça existe. Et en fait, ces cercles de parole, ils existent bien pour travailler sur les relations amoureuses, pour dire les problèmes que l'on rencontre dans le cadre de ces relations, ou pour dire les bonheurs que l'on a aussi, hein, ça marche aussi. Et en fait, en gros, on fait du co-développement personnel.
D'accord. Et qui tu rencontres dans ces cercles de parole? Est-ce qu'il y a des profils, des types de polyamoureux précis, ou est-ce qu'il y a toutes sortes de profils sociaux
Alors, moi, j'avoue, la première fois que je suis allée dans le premier café poly, et en plus, c'était juste après la Covid, et du coup, c'était chez quelqu'un, je me suis dit, oh là là, je vais me retrouver avec plein de 68ards, genre la liberté sexuelle, etc. Est-ce que c'est bien? Est-ce que... Voilà. Et puis, en fait, non. On rencontre des tas de personnes différentes. Vraiment. Tout le monde, en fait, peut être polyamoureux. Et vous ne le savez pas. Voilà. Et les personnes que vous rencontrez, vous ne savez pas qu'elles sont polyamoureuses.
Et depuis que tu es polyamoureuse, depuis que tu t'intéresses au sujet, est-ce que tu as senti qu'il y a une forme d'engouement ou une mode du polyamour ou pas du tout? Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est voué à rester confidentiel ou marginal?
Alors, ce qui est certain, c'est que c'est pas une mode. C'est pas une mode. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que on est polyamoureux. Est-ce que tout le monde peut être capable d'être polyamoureux? J'en sais rien. J'ai un peu le sentiment depuis un an, mais peut-être que mon opinion changera dessus, qu'il existe deux sortes de polyamoureux. Ceux qui savent qu'ils ont toujours été comme ça, et puis ceux qui viennent par leurs valeurs, c'est-à-dire qu'ils ont des valeurs d'éthique, ils ont des valeurs, et peut-être qu'ils ne seraient pas devenus polyamoureux, mais comme ils sont avec quelqu'un qui le sont et qu'ils ont la valeur de transparence, ben en fait, ils deviennent aussi polyamoureux. Est-ce que c'est une mode? Je crois qu'on est à peu près 1000 et quelques à Montpellier de polyamoureux.
C'est pas mal.
Oui, dans nos cercles de parole, on est, ça regroupe plusieurs villes, mais on est une trentaine actuellement. Et c'est des cercles qui sont ouverts où tout le monde peut venir.
Et comment ce chiffre de 1000, comment tu y arrives? C'est-à-dire que sur les réseaux?
Crois que j'avais vu passer voilà, c'est vraiment de mémoire, mais j'avais vu passer sur les réseaux le nombre de personnes qu'il y avait. De toute façon, il y a un site dédié au polyamour qui s'appelle poly.info.org. Et dedans, on retrouve plein d'articles, on retrouve beaucoup de sources sur le polyamour. Et il me semble qu'il y a des retours qui sont faits sur les nombres de personnes, etc.
Et tu nous dis bien que voilà, tu ne sais pas si tout le monde peut ou non être potentiellement polyamoureux, mais il y a beaucoup de gens qui s'interdisent, tu as le sentiment que si les gens s'autorisaient, il y aurait beaucoup plus de polyamoureux, a priori, qu'il y en a actuellement.
Peut-être pas, peut-être ou peut-être pas. Mais j'ai envie de poser une question. Est-ce que l'amour est pas universel? Pourquoi on n'aimerait pas plusieurs amoureux comme on aime plusieurs enfants, comme on aime plusieurs amis, comme on voilà. L'amour, c'est pas peut-être pas. On peut pas aimer une personne toute sa vie. Et si on le fait, il y a des personnes qui sont, on les appelle nous les serial mono, qui enchaînent les relations de manière successive. Peut-être qu'ils sont polyamoureux, peut-être. Le signe du polyamour, je l'ai là sur mes boucles d'oreilles, c'est un cœur avec un 8 infini entrelacé.
Bien, voilà. C'est beau. Et tu m'as dit que toi, c'est fait depuis l'adolescence, en fait,
ouais.
que tu as senti que ton cœur, disons les choses comme ça, avait envie ou le potentiel d'aimer plusieurs personnes. Et tu t'es demandé pourquoi toi, tu es comme ça. Est-ce qu'il y a une chose dans ton... C'est de naissance, c'est dans ton histoire personnelle ou je sais pas. Est-ce qu'on s'interroge comme ça d'une manière psychologique ou psychanalytique ou ça c'est pas un truc qui t'intéresse ou qui est pertinent?
Non, pas du tout. En fait, je me suis pas posé cette question jusqu'à ce que tu me la poses. En tous les cas, quand j'étais adolescente, je m'étais dit, en fait, tout le monde doit ressentir ça. D'être amoureux de plusieurs personnes, mais comme le modèle c'est ça, peut-être que en fait je l'aime un peu moins cette personne. Et c'est ça aussi, c'est quand on je me souviens dans ma première relation quand j'ai été amoureuse de cet autre homme, enfin que j'ai eu un parce que il n'y a rien eu, un ressenti sur cet autre homme, je me suis dit, ah, mais peut-être que j'aime moins, donc le père de mes enfants à l'époque, en fait, peut-être que je l'aime moins. Voilà. Et pour autant, je pense que c'est à ce moment-là, après ça a été le cas, mais à ce moment-là, ce n'était pas le cas.
Voilà. Et est-ce que tu pourrais, si tu fais une nouvelle rencontre, par exemple, et si tu rencontres un homme ou une femme monogame, pour toi, c'est exclu de revenir sur le polyamour, repasser un autre modèle qui serait celui du monoamour.
Alors oui, effectivement, ce serait compliqué de revenir en arrière aujourd'hui parce que je pense que ça fait vraiment partie de ma personne, de qui je suis. Ce que je constate quand ça arrive dans les cercles de parole, on a quelques personnes qui rencontrent des personnes mono, c'est que c'est beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance de part et d'autre. Soit la personne mono est ce qu'on appelle polyacceptante, c'est-à-dire qu'elle accepte que l'autre personne soit polyamoureuse et dans ce cas, elle souffre énormément. Soit la personne polyamoureuse, et c'est l'exemple d'une amie notamment, s'interdit d'être polyamoureuse parce qu'elle est très amoureuse ou il est très amoureux de cette personne mono. Et dans ce cas, il ou elle souffre énormément. Donc, c'est beaucoup de souffrance. Donc, maintenant, on ne choisit pas toujours de qui on tombe amoureux. Donc, c'est ça aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'ils souffrent énormément, ces personnes, c'est qu'ils sont amoureux les uns des autres. Mais en même temps, ils n'ont donc pas choisi. Et en même temps, voilà, ce serait facile de dire, en fait, ça ne fonctionne pas entre vous, séparez-vous. C'est beaucoup plus compliqué que ça, l'amour.
Et si tu devais faire le bilan de cette première année, hein, si c'est bien ça, de polyamour, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu es plus heureuse, plus épanouie grâce au polyamour? Ou est-ce que il y a quand même, c'était naturel que tu deviennes polyamoureuse, tu pouvais pas t'en empêcher, mais ça apporte quand même des complications. Qu'est-ce que tu retiendrais?
Alors, les deux. Les deux, oui, c'est plus épanouissant, oui, ça apporte énormément de bonheur. En début de relation, il y a ce qu'on appelle l'énergie nouvelle relation, les petits papillons dans le ventre qui apportent de la sérotonine au cerveau. Et donc, forcément, ça apporte beaucoup de choses. Et en même temps, oui, ça complique beaucoup les choses, notamment par rapport à l'emploi du temps, notamment par rapport aux insécurités que les uns et les autres peuvent avoir, qu'il faut qu'on gère ensemble, hein. C'est pas juste à la personne qui est un peu jalouse de gérer toute seule son insécurité affective. Non, ça se fait à deux, voire à trois. Voilà, c'est quelque chose. Voilà, mais en même temps, est-ce que ça nous aide pas à être mieux avec nous-mêmes? Je pense que oui. Je parlais tout à l'heure de développement personnel. Je pense qu'il y a un vrai travail thérapeutique qui peut être fait à travers le polyamour sur soi.
Merci beaucoup, Émilie, d'être venue aujourd'hui nous faire découvrir le polyamour. Merci.
Je vous en prie. Merci à vous.
Erotico, le podcast locaux de tous les désirs.